RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Et si on levait les yeux au ciel ce matin pour regarder la météo, ou plus exactement de la météo et du climat, pour bien saisir la différence entre les deux et la manière dont ils sont liés? Et c'est important pour comprendre le dérèglement climatique, comme nos deux invités vont nous l'expliquer dans une rediffusion de Je pense donc j'agis du 5 décembre dernier. Notez que dans la seconde partie de l'émission, toujours dans le monde de la météo, on vous présentera des personnes qui ont eu le coup de foudre pour les orages. Ce sont les chasseurs d'orages, des femmes et des hommes qui parcourent parfois des milliers de kilomètres pour capturer l'instant magique où l'électricité danse avec la colère atmosphérique. Ce sera à 10h. Et comme c'est une rediffusion, merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute! Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Avec vous ce matin, on parle donc des différences entre météo et climat et des liens qui existent entre les deux.
Or, les différences et les liens entre météo et climat viennent éclairer la question du réchauffement climatique. Et pour s'y attaquer collectivement, nous avons besoin de connaître et au moins de sortir des erreurs qui sont courantes sur les différences et les liens entre météo et climat. On a tous entendu et peut-être même prononcé des phrases du style « avec un été bien pourri comme celui-ci, il est où le réchauffement climatique ?» C'est quelque chose, alors c'est peut-être un peu café du commerce, mais c'est des choses qu'on a pu soi-même dire avant de commencer à comprendre. Et puis vous avez peut-être vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où l'on entend Jean-Christophe Buisson, qui est directeur adjoint du Figaro magazine, sur BFM TV, et il dit ceci: les gens de Météo France, ils sont pas fichus de donner le temps dans 10 jours, je sais pas comment ils arrivent à nous donner le temps dans 80 ans. Alors, dans cette émission, on va essayer d'analyser ce genre d'affirmation dangereuse parce qu'elle fabrique le déni.
Et pour en discuter dans cette première partie jusqu'à 10h, Anne, on a le plaisir d'accueillir deux invités.
Oui, alors une climatologue et un météorologue, donc deux métiers liés mais bien différents. La climatologue, c'est vous, Françoise Vimeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui est situé sur le plateau de Saclay au sud-ouest de Paris et puis aussi au laboratoire hydrosciences à Montpellier. Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Vous êtes le météorologue et vous êtes prévisionniste à Météo France. Je vous propose qu'on entre dans la question, Melchior, par les deux métiers qu'on a la chance d'avoir ce matin sur ce plateau, parce que c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre. Alors Françoise Vimeux, qu'est-ce que c'est qu'une climatologue ou un climatologue? Qu'est-ce que vous faites au quotidien et à quoi sert votre travail?
Alors, je crois que le métier de climatologue, c'est d'étudier le système climatique et de le comprendre. Alors, on a des climatologues qui vont s'intéresser, par exemple, au climat du passé pour essayer de comprendre la variabilité naturelle de notre système climatique, qui vont regarder dans des passés récents ou des passés lointains, plusieurs milliers, dizaines ou centaines de milliers d'années. On a d'autres climatologues qui, eux, vont s'intéresser à comment notre système climatique va évoluer dans les décennies et les siècles à venir. Et puis, on a aussi des collègues qui vont plus spécifiquement regarder certaines composantes du système climatique. Alors, ça peut être l'atmosphère, les calottes polaires, l'océan. Et ils vont essayer de décortiquer la manière dont ils fonctionnent, les processus. Par exemple, on a des personnes, des collègues qui travaillent sur comment les systèmes de mousson dans les régions tropicales fonctionnent, comment les événements El Niño, La Niña dans le Pacifique équatorial se déclenchent, ou bien quels sont les intérêts entre l'océan et les calottes polaires. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une connaissance profonde de notre système climatique et de ses composantes. Et bien sûr, l'application aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre pour bien modéliser et bien aussi voir comment notre système climatique va évoluer sous la pression anthropique.
Anthropique donc de l'homme, de l'être humain. Olivier Proust, ce qui vient d'être décrit par Françoise Vimeux, c'est pas du tout votre métier à vous ?
Alors, c'est pas du tout, c'est quand même, ça fait partie quand même du même domaine, mais c'est effectivement pas les mêmes échelles qui sont en jeu et on répond pas aux mêmes questions. La question à laquelle je vais essayer de répondre, moi, c'est quel temps va-t-il faire aujourd'hui, demain, après-demain? Est-ce qu'il va falloir sortir les affaires d'hiver de l'armoire? Donc c'est pas du tout les mêmes échelles. Alors, en niveau temporel et puis au niveau spatial. Et puis on va pas regarder exactement les mêmes objets météo. On a entendu parler de El Niño, on a entendu parler des interactions, par exemple océan, atmosphère, sur de larges échelles. On peut avoir des ondes qui circulent autour des hémisphères et qui vont influer sur un endroit particulier du globe pendant quelques jours le temps. Et puis nous, on va être à des échelles plus réduites. On va regarder des objets météo qu'on va d'abord analyser. La première chose qu'on fait, c'est de savoir le temps qu'il fait. Ça peut paraître trivial, mais c'est pas si évident. On va analyser les courants, les vents, comment ils sont pilotés, par quel centre de dépression. Est-ce que cette dépression est relayée en altitude ou pas? Est-ce qu'elle va se creuser ou pas? Est-ce qu'elle est organisée en emmenant, par exemple, une langue d'air très chaud qui va produire des pluies? Et puis, est-ce que ces pluies vont arriver sur des sols qui auront eu le temps de se réchauffer? Est-ce qu'on aura une problématique de verglas? Est-ce que quand le vent va passer les crêtes de la Corse, est-ce que la masse d'air sera assez instable pour pas déferler derrière et apporter des vents violents jusqu'en plaine, par exemple? Donc c'est vraiment des problématiques de plus petite échelle, spatiale et temporelle. Mais on est quand même dans le même domaine de science.
Je le disais au début, vous êtes prévisionniste à Météo France. Prévisionniste, météorologue, c'est synonyme ou il y a d'autres manières d'être météorologue?
Moi, je pense pas qu'il y ait de définition très rigoureuse à météorologue, climatologue. Bon, prévisionniste, il essaye de prévoir le temps. Prévoir, et d'ailleurs, on verra peut-être après, prévoir et prévenir. Mais on parle d'une grosse machine, le climat, et il y a différentes échelles. Les climatologues la regardent une grande synthèse à de larges échelles. Le prévisionniste va regarder vraiment à une plus petite échelle, à l'échelle de nous, de la société, sur les quelques jours qui viennent, et quel sera notre temps quel sera le temps qui va nous accompagner. Donc voilà, ouais, je pense que météorologue, je ne connais pas vraiment la définition exacte de météorologue. Un climatologue est un météorologue, non? Je ne sais pas.
Oui, bon. Je ne suis pas sûre. En fait, je crois que le climatologue regarde les mêmes variables météorologiques que le météorologue, mais il regarde les moyennes sur plusieurs décennies, à minima 30 ans, 40 ans. Il regarde les tendances de fond, en fait. Et je crois que ça, c'est ce que tu as dit, hein. Il y a des différences en termes d'échelle spatiale et temporelle. Nous, on regarde vraiment comment ça évolue sur le long terme. On s'intéresse pas au temps qu'il a fait hier ou au temps qu'il fera demain. On s'intéresse au temps qu'il a fait il y a 10 000 ans et au temps qu'il fera peut-être à la fin du siècle.
Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose, c'est que chaque événement, situation météorologique, au bout du compte, va fabriquer ce qu'on va appeler une distribution des possibles de la météo sur une zone, et c'est ce qu'on appelle un climat, et c'est ce climat qui va modeler nos paysages, modeler notre façon de vivre. Est-ce qu'on a peur de la mer ou pas peur de la mer? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir tout le temps de la neige ou pas? Est-ce qu'il pleut des sauts? Ou est-ce qu'on est en stress hydrique continu? Ce sont nos climats. Et ces climats, ils sont constitués en fait de ces sommes des événements météo que le climatologue va analyser d'une manière un petit peu statistique en étudiant la distribution des possibles et donc fabriquer une synthèse du climat à un endroit. Alors, et donc c'est cette somme de météo. Donc c'est toujours intriqué. On va regarder une situation météo par rapport à l'ensemble des possibles météo de la saison à cet endroit-là, et on va pouvoir d'ailleurs caractériser cet événement en disant c'est un événement extrême, c'est un événement un non-événement, ou il est tiède, ou alors il est particulièrement violent. Donc c'est il y a quand même c'est intrigue, et c'est les deux sont liés, je pense, hein. La météo fabrique le climat dont on parle en parlant des normales de saison, en disant qu'il pleut plus sur les monts d'Arrée en Bretagne que sur le bassin parisien. Ça c'est des climats qui sont fabriqués par la météo, et puis on va voir après que le climat, la machine climatique et son dérèglement va fabriquer de nouvelles météos.
Comment on se forme à vos métiers?
Alors en fait, il y a énormément de voies qui aboutissent à la climatologie. Je dirais qu'à la base, on a tous fait des études très disciplinaires. Alors ça peut être des mathématiques, ça peut être de la physique, ça peut être de la biologie, de la géologie ou de la chimie. Et puis on s'est spécialisé un peu sur le tard. pour l'application de ces disciplines au climat, en tout cas pour ce qui nous concerne. Et on n'a pas vraiment suivi dès le départ des études en environnement, par exemple, hein. Et on a un bagage, une espèce de boîte à outils que l'on va appliquer aux sciences du climat.
Ça veut dire qu'à l'heure de l'orientation, vous ne vous êtes pas dit, Françoise Vimeux, je serai climatologue?
Alors en fait, c'est venu petit à petit, hein. C'est-à-dire que moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était chimie, sciences physiques. Et puis après, au fil de mes études, j'ai découvert la géochimie, j'ai découvert son application justement aux sciences du climat. Et c'est petit à petit, en découvrant, que je me suis dit, c'est formidable ce qu'on peut faire en climatologie. Et c'est là où j'ai décidé, je dirais, en dernière année d'études universitaires, hein, ce qui correspond au Master 2 aujourd'hui, de me spécialiser dans l'environnement, dans le climat. Mais c'est surtout au niveau de la thèse que je me suis complètement formée au métier de climatologue.
Et avec à ce moment-là déjà le spectre, je ne sais pas comment dire, du dérèglement climatique, enfin, vous saviez que ça allait être une part importante de ce que vous alliez faire?
Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'à mon époque, hein, moi j'ai soutenu ma thèse en 1999, hein, il y avait évidemment ce spectre du changement climatique, puisqu'on peut le rappeler, le premier rapport du GIEC est sorti en 1990, mais c'était pas la motivation principale que nous avions. La motivation, en tout cas la mienne, et je crois celle de mes collègues proches, était vraiment d'apporter de la connaissance sur le fonctionnement de notre système climatique, de comprendre les rouages, de comprendre les mécanismes et d'aller en profondeur avec un ensemble de traceurs, d'indicateurs, et je crois que c'est ça qui nous motivait. Et le fait est que année après année, effectivement, ce changement climatique a pris de plus en plus de place dans nos recherches.
Pour vous, Olivier Proust, ça s'est passé comment et quelle formation? Vous disiez, je serai prévisionniste à Météo France, ou c'est venu en chemin?
Comme disait Françoise, j'étais assez discipliné, j'aimais les matières qu'on me proposait à l'école, et voilà. Et c'était parti pour de la science, mais moi j'avais j'ai toujours une sensibilité sur la géographie, et quand j'ai découvert que je pouvais aller dans une école où les deux étaient quand même plutôt pas mal mêlés, bah, j'y suis allé, quoi. Et puis je crois qu'il n'y a pas eu de questions vraiment dans la formation à Météo France. On forme au départ de manière assez comment dire, tout le monde suit le même cursus globalement. On n'est pas estampillé futur climatologue ou futur prévisionniste à l'entrée dans cette école, mais rapidement, moi, c'était la prévision qui m'a plu, et les climats, alors, mais pas les climats comme on en parle maintenant, c'est-à-dire ce dérèglement de la machine globale, mais plutôt les climats d'un point de vue géographe, quoi.
Et avec nos deux invités dans cette première partie, le météorologue Olivier Proust et la climatologue Françoise Vimeux.
Alors on a bien compris en vous écoutant que c'est assez subtil, parce que à la fois vos métiers sont proches, au départ c'est un peu la même chose, puis après on comprend que ça spécialise, mais pourquoi pour vous, aujourd'hui, dans le contexte actuel, pourquoi vous avez accepté de venir à cette émission, pourquoi il vous semble important de bien comprendre les différences entre les deux, Olivier Proust?
Parce que c'est pas évident, effectivement. Je comprends tout à fait qu'on ait sincèrement cette idée de, on nous parle de réchauffement climatique, pourtant j'ai froid. Je crois que oui, on peut encore avoir sincèrement ce petit flou dans ces notions-là, et donc c'est important qu'on vienne les rappeler. Après, il y a pas mal de gens qui sont plus dans une sorte de déni ou de malhonnêteté. Après, il n'y a pas de pire sourd qui ne veut pas entendre, mais il y a quand même une partie, je crois encore, qui sincèrement a du mal à distinguer la différence. On parlait d'échelle, ça c'est le terme essentiel en fait. On peut avoir quelques jours le vent qui vient du nord. De toute façon, même dans un climat réchauffé, si le vent il vient du nord en France, a priori, il fera pas chaud, hein. Et puis, par contre, s'il vient du sud, bah, il va pas faire froid. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, voilà, si on a une séquence de 7 jours avec du vent du nord, forcément, bah, on va être peut-être un petit peu timide par rapport au niveau de saison. Et c'est normal, c'est la météo. Elle est constituée c'est des grandes vagues qui circulent autour des hémisphères. Bah, des fois, on est dans le creux, des fois, on est dans la bosse. Des fois, cette vague, elle bouge plus. On est dans des situations bloquées. Ça peut traîner pendant 10 jours. Et puis, hop, ça change. Une perturbation atlantique revient. Et puis, il y en a une deuxième, une troisième. Un rail de dépression s'installe. C'est la météo. Et puis, nous, On va s'attacher chaque jour à savoir l'enjeu qu'il y aura sur tel et tel objet, mais on peut tomber effectivement sur des séquences, hein, c'est un terme à la mode maintenant, sur des séquences météo qui vont être un petit peu particulières et qui ne changent pas ce que les climatologues annoncent, étudient, racontent, ont compris de ce qui va nous arriver, quoi. Ça, c'est évident. Il faut vraiment distinguer le fait qu'on puisse avoir un temps qui paraît pas spécialement étrange ou même une récurrence sur un mois de situation fraîche, par exemple. Mais ça ne change rien à ces résultats qui sont à d'autres échelles, évidemment.
Françoise Vimeux, Olivier Proust le disait au début, il y a une part tout à fait légitime de quand on dit je comprends pas bien là, il fait chaud, il fait froid alors qu'on nous parle de réchauffement climatique. Et en même temps, il disait, il peut y avoir aussi, il n'a pas employé ce mot-là, mais comme une instrumentalisation de cette difficulté à comprendre qui au départ est légitime, mais qu'on peut utiliser de manière très consciente et à des fins de déni.
Oui, bien sûr. Et je pense qu'au départ, comme vous le dites, c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire que moi, je donne des conférences et il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas et sincèrement la différence entre météo et climat. Et à partir du moment où on leur explique que oui, l'été 2021 peut être frais et pluvieux dans le nord de la France, mais n'empêche, l'été 2021, ça correspond quand même aux étés les plus chauds de la décennie 1950-1960. Il y a des gens qui disent, c'est vrai, hein, c'est Météo France, ils sont pas capables de prévoir le climat correctement dans une semaine. Alors vous pensez bien, les climatologues avec le climat à la fin du siècle, mais c'est l'occasion hein, de leur expliquer que ce qui gouverne le climat sur des échelles qui sont de plusieurs décennies, c'est très simple en fait, hein. C'est la concentration des gaz à effet de serre, la manière dont l'énergie solaire va varier et puis potentiellement les volcans de manière très ponctuelle. Alors que ce qui va gouverner le climat dans une semaine, c'est un ensemble de paramètres et toute la combinaison de ces paramètres. Et donc ça fait des milliers de solutions et donc c'est impossible de prévoir le temps à plus de 15 jours. Et donc, à la question de pourquoi finalement moi je viens à ce genre d'émission, c'est pour déminer, pour expliquer. Et en plus, on peut expliquer, je pense, dans des termes simples, pourquoi c'est important la différence météo et climat et pourquoi certaines confusions font que les gens se posent en toute bonne foi des questions sur le changement climatique parce qu'ils regardent par la fenêtre et la météo leur dit autre chose que ce que le climatologue leur dit.
Par exemple, on peut prendre le cas de l'été 2023 où on a entendu les gens dire, enfin en tout cas, par exemple en Bretagne où je suis, au mois d'août, les gens disaient mais il fait mauvais, on voudrait du soleil. Alors il y avait une frustration et qui amenait à dire certains, mais alors où est le réchauffement climatique? Et en même temps, on entend que 2023 est l'année la plus chaude de l'histoire. Donc ça peut paraître contradictoire effectivement.
Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas en fait, parce que effectivement en Bretagne il faisait frais, il pleuvait, mais le climatologue il va regarder ce qui se passe en moyenne à l'échelle de la planète. Et quand on fait ça, et ben l'été 2023 c'était l'été le plus chaud à l'échelle de la planète, quatrième été le plus chaud en France, parce que la France c'est pas que la Bretagne, hein, il faut regarder l'ensemble du territoire. Et donc c'est là où on revient sur la notion d'échelle spatiale. La météo c'est vraiment quand on regarde par sa fenêtre le temps qu'il fait. Le climat c'est comme si vous preniez une échelle très 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 grande, vous montez très très haut et au lieu de regarder juste dans votre jardin ou dans votre rue, vous regardez à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la planète, et là vous dites, bah non, en moyenne, là, il fait vraiment très 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 chaud.
Oui, Olivier Proust. J'ai une image que j'utilise de temps en temps. La météo, c'est vous lancez un dé, et le climat, vous regardez la moyenne de votre dé. Bon, bah, vous avez 3,5 à peu près, hein, si votre dé, il n'est pas pipé. Et puis vous pouvez faire un 1, vous pouvez faire un 6, vous pouvez faire une série de 4 1. Une série de 4-6. Et puis le dérèglement climatique, il pipe votre dé. Vous aurez de plus en plus de 5 et de 6. Vous allez lancer votre dé, mais des fois, vous allez faire 1. Puis vous allez peut-être même en faire encore 2 de suite. Mais vous allez vers plus de 5, plus de 6. Le dérèglement climatique pipe le dé du climat. La météo, c'est un lancer de dé. Alors, Dieu ne joue pas au dé, Einstein l'a dit. Hein, mais en fait, les mathématiciens qui étudie les systèmes dynamiques. Hein. La météo, c'est un système dynamique, chaotique, non linéaire. C'est un peu compliqué ce mot-là, mais en fait, ça mélange des échelles différentes. Vous imaginez que c'est assez facile de prévoir le mouvement d'un pendule. Maintenant, le climat, c'est comme si vous aviez des millions de pendules de plein de tailles différentes qui s'entrechoquent et en plus, on n'arrête pas de les secouer. Donc là, l'ordinateur devient énorme et il n'est pas capable d'aller vous dire ce qui va se passer dans 15 jours. Et il y a presque la question qui pourrait se poser, c'est Dieu joue-t-il au dé ? Donc voilà, moi j'aime bien cette image du dé. Voilà, on peut tomber sur des 1, même si votre dé est pipé. Et le dé est pipé de plus en plus.
Jean, vous êtes à Paris, bonjour.
Oui, bonjour à tous, merci pour votre émission. On sait que, enfin j'ai entendu à la radio, que l'année qui a précédé la Révolution française, le vin gelait dans les tonneaux, dans les caves, et il y avait une atténuation solaire de plus de 30% due, pense-t-on, enfin il paraît que ça a été prouvé, à une conjonction de 300 volcans cracheurs de flammes autour de la planète. Mmh. Est-ce qu'on connaît la périodicité de ce genre de phénomène ?
Eh ben Jean, écoutez, merci beaucoup pour votre question. On va pouvoir en discuter avec nos deux invités, je pense, qui connaissent bien ce sujet. Françoise Vimeux, je me tourne vers vous pour parler plutôt météo des volcans, si je devais un peu généraliser ce qu'a dit Jean. Météo, en tout cas, est-ce que les volcans influent le dérèglement climatique ? Je ne sais pas si ma question est très, très claire.
Oui, oui. Ouais. Elle est claire et la question aussi. Alors en fait, quand on regarde à ces échelles de temps qui sont les derniers siècles, hein, ce qui va influer sur le climat, c'est bien sûr donc la concentration des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, le soleil, sa variation d'énergie, c'est-à-dire la variation du rayonnement que l'on reçoit, et les volcans. Alors les volcans, c'est ce qu'on appelle un forçage très puissant, hein, dans le sens où lorsque l'on a des éruptions qui sont capables d'envoyer des cendres dans la très très haute atmosphère, eh bien ces cendres vont se répartir autour de la planète assez rapidement et vont créer un refroidissement ponctuel qui peut être de 1 degré, voire plus, hein, et ce refroidissement ponctuel va durer entre 1 à 2 ans après l'éruption. Et ce refroidissement, lorsque l'on regarde par exemple depuis le début du XXe siècle ou même un peu avant, il se superpose à la tendance au réchauffement qui, elle, est contrôlée par les gaz à effet de serre. Et puis pour ce qui est du soleil, eh bien là, quand on parle du XVIIIe siècle ou même du XVIIe siècle, on parle souvent du petit âge de glace qui correspond effectivement à une période où on avait un ensoleillement un tout petit peu plus faible, mais l'impact sur la température a été très très faible par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et lorsque l'on regarde la manière dont l'énergie du soleil qui nous arrive a varié depuis le début du XXe siècle, en fait la courbe est plate. On ne voit pas de tendance. Et donc ce que l'on vit actuellement par rapport à ce petit âge de la glace est très différent en termes de forçage, c'est-à-dire en termes de contrôle du changement climatique. Hein, on dit le climat a toujours varié, et c'est tout à fait vrai, mais les contrôles de cette variation ne sont pas toujours les mêmes. Et aujourd'hui, le contrôle de ce que l'on observe en termes de changement climatique, ce sont les gaz à effet de serre. S'il y a un volcan qui rentre en éruption demain et qui a un impact sur l'ensemble de la planète, alors l'année prochaine et certainement l'année suivante, on aura une température qui va être beaucoup plus fraîche. En revanche, on va revenir ensuite sur la tendance au réchauffement.
Et la suite de cette rediffusion de Je pense donc j'agis sur les différences météo-climat, c'est dans un instant. À tout de suite.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé,
et toi,
une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintes fois, oublier partir en vacances. En vacances de toi, mais comme l'amitié nous rattrape, nous
rattrape à chaque fois. Autant tenir quand ça dérape.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure.
Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais même imaginé
ne jamais atteindre une rive.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
Éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure.
J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras.
Ah ça je l'ai voulu souvent.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Récolter ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème.
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
Avec nos deux invités dans cette première partie de Je pense donc j'agis, la climatologue Françoise Vimeux et Olivier Proust, météorologue et prévisionniste à Météo France. Anne, je vous propose d'accueillir une auditrice, si vous le souhaitez, tout de suite, qui patiente, c'est Nicole de Albertville. Bonjour Nicole.
Oui.
Bonjour, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Oui, bonjour. Voilà, on parle qu'il y a, depuis la Révolution, des périodes très pluvieuses dues à l'éruption des volcans. On sait que depuis 2000 ans, le désert, depuis 2000 ans, on disait que les Romains passaient à la lisière des déserts avec leurs chevaux, donc il y avait de l'herbage, donc le désert a beaucoup augmenté de volume. Est-ce que ça s'accélère? Est-ce que la désertification menace peut-être des régions qui n'ont pas encore eu ce problème de désertification? Est-ce que tout d'un coup des choses s'assèchent et font qu'il y a des migrations supplémentaires? Voilà, à quel endroit ça craint le plus? Voilà, la météo, les éruptions solaires, l'avancée des déserts, les migrations.
Ça fait beaucoup de questions, Nicole. On va devoir choisir.
Pas comment résumer.
Mais on a très bien entendu ce que vous venez de dire et merci beaucoup d'être venu à l'antenne pour poser cette question. Françoise Vimeux, je me tourne toujours vers vous, mais pour parler des déserts, c'est intéressant, je trouve aussi ce témoignage de Nicole.
Oui, alors je pense que là il y a beaucoup de choses. Hein. Il faut vraiment différencier. Peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que quand le climat change, c'est la température qui augmente, mais le fait que la température augmente, ça vient bousculer l'ensemble des régimes de pluie dans toutes les régions de la planète, avec certaines régions où on va avoir moins de pluie et des régions où on va avoir plus de pluie. Alors généralement, pour faire simple, on dit qu'il va pleuvoir plus là où il pleuvait déjà pas mal, et il va pleuvoir moins là où il pleuvait déjà pas beaucoup. Donc effectivement, pour la désertification, on voit ce phénomène dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique du Nord, où on voit le désert remonter, et au Moyen-Orient. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que peut-être, contrairement à la température, où on n'a pas de doute sur l'évolution de la température en fonction de quelles seront nos émissions de gaz à effet de serre, on a beaucoup plus d'incertitudes sur comment les pluies vont évoluer, et même sur le territoire métropolitain. Les modèles montrent moins de consensus sur l'évolution des pluies. En revanche, on sait par exemple que sur le pourtour méditerranéen de l'Europe, donc ça concerne la France, on va avoir en été beaucoup moins de pluies. et ça dès les années, les décennies qui viennent. On a plus d'incertitudes sur comment les pluies vont évoluer l'hiver dans les deux tiers nord de la France, même si les modèles sont capables de nous donner une réponse. Peut-être que tu veux compléter ma réponse.
J'avoue, ouais, c'est à la limite de ce que je peux raconter, moi, quand même. Là.
C'est là la différence climat et météo, voilà.
Bonne illustration.
Non, mais il y a peut-être une idée quand même. On parle du le beau temps, c'est le temps qui change, et avec le dérèglement climatique, cet adage il est encore plus vrai, à savoir qu'une situation qui va se bloquer, une situation qui va rester, par exemple en vent d'ouest, va apporter sur certaines zones, par exemple plus facilement des pluies qui vont être inédites. Ça va s'expliquer par exemple avec un transport d'une masse d'air humide encore plus chaude que d'habitude qui va traverser l'océan Atlantique et donc déverser des précipitations comme on a pu le voir par exemple sur le nord du Pas-de-Calais ces derniers temps. Et à contrario, une situation comme ça va maintenir un temps sec sur tout le Roussillon et une bonne partie du Languedoc et avec des températures qui sont encore plus chaudes et donc qui vont augmenter le stress du déficit hydrométrique. Donc une situation qui ne bouge pas est encore plus dommageable et va augmenter le risque de situations inédites comme on peut avoir au Pas-de-Calais ou de sécheresse inédite par exemple dans le Roussillon. On a une désertification qui est accrue avec les températures qui montent de toute façon.
Quand vous évoquez, enfin vous parliez Olivier Proust de cette expression-là, le beau temps, ça c'est justement une question autour des mots de la météo. Est-ce que face au réchauffement climatique, vous avez dû revoir votre manière, vous les prévisionnistes, de dire la météo ?
Oui, clairement, c'est une question très très intéressante. J'ai parlé de beau temps et j'ai dit que c'était le temps qui changeait. Ça veut dire oui. Une succession d'averses. C'est le temps qui est bon, le beau temps finalement maintenant, parce qu'avant le beau temps c'était effectivement 15 jours sans
soleil.
Pluie. Voilà, 15 jours sans pluie début juillet avec 30 degrés. Voilà. Bon, maintenant ce qui se passe c'est que le beau temps, cette idée de temps sec, de temps chaud, de temps estival, en fait on le voit au sein d'un on le voit plutôt, on le voit de façon plus intense et il est quand même problématique et il faut pas je comprends qu'on puisse être très très content de rester en t-shirt jusqu'à la mi-octobre en journée, mais c'est pas un beau temps parce que il est très dommageable. On se retrouvait par exemple avec des indices de sécheresse des sols inédits à la sortie de cet été tellement tardif, là 15 octobre par exemple, et donc on peut pas qualifier vraiment de beau temps ce temps qui est pourtant effectivement très agréable d'un point de vue purement égoïste.
Ouais. C'est une question que se posent beaucoup les médias que nous sommes sur la manière de dire le temps, puisque c'est on sait que c'est un rendez-vous qui est très attendu par les auditeurs, les téléspectateurs, la météo. Alors c'est peut-être plutôt une question pour des psychologues ou des anthropologues ou des sociologues, mais je vous la pose quand même. Est-ce que justement la manière qu'on a de dire le temps, elle est importante au regard du réchauffement climatique ? Est-ce qu'elle conditionne des choses de votre point de vue ?
Oui, là je pense par exemple. J'ai peut-être mal compris votre question, mais je pense par exemple qu'actuellement, dans cette situation de régime perturbé atlantique, on va dire par exemple, une nouvelle fois, les précipitations vont laisser à l'écart les régions méditerranéennes, alors qu'avant, on disait tranquillement, ces précipitations vont une nouvelle fois épargner les régions méditerranéennes. Donc, on met dans nos termes, évidemment, ce qu'on attend et ce qu'on espère, là, en ce moment, en Méditerranée, dire vous êtes épargné par la pluie, on l'a mauvaise, je pense. Donc oui, il y a clairement une utilisation, enfin, le vocabulaire de toute façon décrit les humeurs et les attentes, évidemment, et on fait très attention. En tout cas, par exemple, une remarquable douceur en novembre, et c'est trop chaud, même si c'est très agréable, faut que nous, on soit là pour dire quand même, là, il y a un souci, on va pas... On peut pas rester juste à dire « Ah, c'est super cool qu'il fasse très très doux ».
Alors, on le sait, je le disais, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs des journaux aussi attendent. Enfin, la météo, c'est quelque chose de très important parce que ça conditionne des tas d'activités qu'on va faire dans la journée. Est-ce que cet intérêt, enfin, à quand remonte cet intérêt-là pour la météo? Et est-ce qu'il y a le même intérêt pour le climat? Alors, peut-être Olivier Proust d'abord, puis Françoise Vimeux.
Je pense que depuis toujours, on s'intéresse à ce qui nous tombe dessus et si on a froid ou chaud. Après, l'exigence de savoir ce qu'il va y avoir comme temps, elle est très très récente. Elle arrive un petit peu, j'imagine, depuis à peu près 200 ans, on essaye de comprendre comment on va pouvoir prévoir le temps qui va arriver. Et du fait qu'on commence à être capable de prévoir ce temps, on commence à exiger d'avoir une prévision. Et maintenant, avec les puissances de calcul, la mise en équation et l'approche d'une résolution de ces équations grâce aux ordinateurs fait qu'on arrive à prévoir de plus en plus précisément, et on va être de plus en plus exigeant, et on va avoir des comportements de la société qui vont être de plus en plus exigeants vis-à-vis des aléas climatiques. On veut avoir un fonctionnement nominal par tout temps. Par exemple, s'il y a 5 cm de neige qui recouvre le nord de la France, même si c'est absolument parfaitement prévu, et puis en soi pas quelque chose de très très important, ça va être la cata, parce que on a un fonctionnement de la société qui veut absolument continuer à fonctionner aussi vite que d'habitude. Donc oui, on a une exigence accrue et ça va exponentiellement. Ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite. Et en plus, donc, on se retrouve avec Françoise nous décrit des événements de plus en plus extrêmes, de plus en plus dangereux. Et ces événements qui arrivent font face à des gens qui sont de plus en plus exigeants face à la météo. Donc, oui, ça, c'est de plus en plus important et ça prend de plus en plus de place.
Françoise Vimeux, depuis quand on s'intéresse au climat et depuis quand on l'étudie aussi?
Alors, c'est une bonne question. En fait, on s'est d'abord intéressé au climat en regardant nos paysages, en essayant de comprendre pourquoi nos paysages sont comme ci ou comme ça. Je pense par exemple en montagne, les vallées glaciaires. Et on s'est aussi posé des questions sur pourquoi on retrouve tel fossile à tel endroit. Et on s'est d'abord donc intéressé à tout ce qui était les aires glaciaires, interglaciaires de notre climat, hein, donc le climat passé assez lointain, hein, sur tout ce qui concerne le dernier million d'années. Ça, c'était fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Et puis, petit à petit, cette connaissance, elle a abouti, hein, au début du XXe siècle par ce qu'on appelle la théorie de Milankovitch, qui est venue expliquer, en fait, ces alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Et puis, en parallèle de ça, en fait, hein, à la fin du 19e siècle, on a des physiciens qui se sont intéressés à l'atmosphère et à l'océan parce que ce sont des fluides, hein, et qu'ils répondent aux lois de la mécanique des fluides. Et par exemple, le chimiste, hein, Arrhenius, qui était un chimiste suédois, est venu à l'époque, hein, expliquer que si on doublait, hein, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça aurait un impact sur notre climat, ça augmenterait la température. Et après, je dirais que les choses n'ont pas beaucoup évolué jusqu'au milieu du XXe siècle, où avec les observations que l'on avait en termes de changement climatique est née la science du climat telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc cette science du climat que nous réalisons au jour le jour, elle est assez récente en fait, hein, et elle a vraiment pris son essor dans les années 1970, où on a eu les premiers modèles de climat qui ont permis de faire des projections qui étaient très très réalistes, hein. On le voit plusieurs dizaines d'années après. Et donc voilà, je dirais qu'il y a une partie de la science qui est assez vieille, et puis une partie de la science qui est assez jeune.
Bonjour Anne.
Bonjour Melchior. Bonjour à vos invités. Bonjour à tous les gens qui écoutent ce matin. C'est très bien l'intervention qui vient d'avoir juste avant, parce que mon observation est encore du travail pour vous, météorologue et climatologue, en vocabulaire. Je trouve que ça s'est réduit beaucoup et que c'est devenu vraiment scientifique. Moi, sur le terrain, j'habite à la campagne, et puis dans les informations que j'ai eues des anciens qui regardaient le temps, je voudrais bien retrouver des mots de ce que l'on regarde, des nuages, des vents, de l'interaction avec les planètes, Voilà.
Mais vous avez des exemples, Anne, quand vous dites que le vocabulaire pourrait être, on va dire, retravaillé ou enrichi?
Ce matin, nous aurons des cumulus.
Ah.
Ce matin, nous aurons des stratus. C'est un vent d'OTAN. C'est un alizé. C'est un vent qui vient d'Afrique. Mais avec les noms.
Merci beaucoup, Anne. C'est intéressant, Olivier Proust. Anne qui voudrait que vous puissiez enrichir votre vocabulaire de météorologue. Mais est-ce que vous gardez ça en tête quand vous essayez, vous, de transmettre des prévisions?
Bah, les quelques exemples que Anne a donnés, on les a et on les manipule, hein, cumulus, stratus, vent d'OTAN, les alizés, on est effectivement dans ce domaine. Moi, j'adorerais pouvoir raconter. Maintenant, nous, on doit prévenir et on essaye de décrire de façon la plus synthétique et compréhensible par le maximum de personnes ce qui va se passer. Je crois pas qu'on puisse indiquer dans un bulletin cumulus, ah si, il y en a certains, cumulus, bon, stratus, mais je crois qu'on il y a peut-être une erreur peut-être de notre part, mais on essaye d'être assez synthétique et de pas trop employer des termes qui pourraient perdre. Mais moi j'adore la poésie du temps et du ciel comme Anne, et c'est vrai que il y a des termes qui sont peut-être pas assez employés. Il faudrait peut-être les bulletins météo effectivement se ressemblent tous en utilisant les mêmes termes. Après
et à côté de ça, vous utilisez par exemple le mot anticyclone très souvent. Pourtant, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, un anticyclone.
C'est vrai. Ouais. Alors, un météorologue va utiliser assez facilement ce terme anticyclone ou dépression parce que c'est ce qui va piloter notre temps. C'est pour nous effectivement une dépression qui va circuler vers l'Irlande. Ça parle à personne, mais nous, ça nous explique comment la pluie va arriver sur le pays, à quelle heure elle va arriver sur la Bretagne et pourquoi c'est plutôt par la Bretagne qu'elle va arriver plutôt que par la Normandie ou le Pas-de-Calais. Donc c'est important, et effectivement, alors si, c'est aussi important parce qu'il y a plein de domaines, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de domaines dans la météo. Il y a le temps qui fait pour quelqu'un qui se demande si je prends un parapluie ou une doudoune. Il y a aussi des gens qui vont il y a la météo aéronautique, il y a la météo marine, donc il y a plein de domaines où il va falloir dire où est cette dépression, où est-ce qu'elle circule. C'est important par exemple pour les marins, alors que ça va pas intéresser les gens à terre qui vont prendre leur voiture ou je ne sais, enfin qui vont vivre leur vie. Ce que je veux dire par là, c'est que suivant le domaine, suivant son activité, ben on va avoir une demande différente. On va employer pas forcément le même vocabulaire. Et je répète aussi, mais la poésie des mots de la météo est grande et belle. Et c'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser dans nos bulletins.
Alors, je voudrais évoquer les phénomènes météorologiques exceptionnels, comme on a vécu récemment, que ce soit les pluies fortes et abondantes dans le nord de la France ou la tempête plutôt en Bretagne. Ces épisodes-là, on peut les qualifier d'épisodes météorologiques seulement, ou est-ce que ce sont aussi des phénomènes climatiques, Françoise Vimeux?
Alors, à la base, ce sont des événements météorologiques, hein, que l'on parle des vagues de chaleur, des pluies torrentielles ou même des déficits de pluie qui amènent à des sécheresses. Alors, ce que l'on sait, et là, c'est là où ça devient subtil, hein, c'est que le changement climatique a une influence sur l'occurrence, c'est-à-dire la fréquence, et l'intensité de ces événements exceptionnels.
On Les sait deux, que, par exemple, intensité et fréquence.
Alors, intensité et fréquence, et si on parle des vagues de chaleur, on sait aussi que le changement climatique vient en quelque sorte allonger la saison estivale. Et là, vous voyez que je parle à la fois de climat et de météorologie, hein, puisque je parle de notre saison estivale. Et les vagues de chaleur, on sait aussi que le changement climatique va venir augmenter leur durée. Hein, le nombre de jours de vagues de chaleur par an va augmenter avec la température. Et donc, ces épisodes exceptionnels sont exacerbés par le changement climatique. Et il y a une autre question qui est vraiment une question de recherche ouverte aujourd'hui pour, je pense, à la fois les climatologues et les météorologues. C'est comment le changement climatique vient modifier notre météo au jour le jour. Alors j'essaye de faire simple parce que c'est pas forcément facile. Est-ce que le changement climatique va juste faire que notre météo va rester la même, mais elle va être un peu plus chaude? C'est-à-dire que nos étés vont être un peu plus chauds, nos hivers vont être un peu plus chauds, mais on va pas percevoir de changement particulier. Ou alors, finalement, est-ce que le changement climatique va nous offrir une météo nouvelle? Je vous donne un exemple. On est habitué en France à avoir des tempêtes et des pluies hivernales, en tout cas sur la moitié nord. Est-ce que le changement climatique pourrait changer la trajectoire moyenne des tempêtes qui pourraient passer un peu plus au nord, donc au sud de l'Angleterre, et qui ferait que finalement on a une modification de notre météo, on a moins de tempêtes, on a moins de pluie. Et là, on voit vraiment un lien très ténu entre changement climatique et météo qui est important. Et c'est une vraie question, en fait, hein, comment ça va se passer. Est-ce que ça va être à peu près la même météo qu'on connaît ou non? On va avoir une météorologie nouvelle?
Ça, on ne sait pas pour l'instant. En revanche, j'ai bien noté que vous présentez comme certain l'effet du changement climatique sur à la fois la fréquence et l'intensité des épisodes violents. Ça, c'est quelque chose qui a longtemps été débattu. Aujourd'hui, on est sûr.
Alors aujourd'hui, hein, la science nous dit que l'intensité et la fréquence de ces événements extrêmes va augmenter un peu partout dans le monde. On a des études d'attribution d'événements climatiques exceptionnels au changement climatique. Et aujourd'hui, par exemple, la plupart des vagues de chaleur records que l'on connaît dans le monde sont attribuables au changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un climat non modifié par l'homme, ces vagues de chaleur n'auraient pas pu exister, ou alors si elles avaient existé, leur intensité aurait été beaucoup plus faible, si bien qu'on n'aurait pas forcément parlé de vagues de chaleur.
Alors, je reviens à ce qu'on évoquait au début, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. La manière dont, avec des affirmations du genre « il fait chaud, on nous parle, il fait froid, on nous parle de réchauffement climatique, c'est n'importe quoi », comment on fabrique du déni avec ce genre d'affirmations? Quelles sont les autres affirmations comme ça qui peuvent circuler et qui fabriquent du déni et qui sont manifestement erronées? Est-ce que vous pensez à d'autres choses que vous avez pu entendre ou voir circuler?
Oui, alors... Moi, je peux dire rapidement les trois que j'entends le plus souvent. Donc, c'est ça, en fait. Hein, il fait froid cet été, mais où est passé le changement climatique? Ensuite, l'autre affirmation que j'entends souvent, on en a déjà parlé, hein, si on n'est pas capable de prévoir le temps qu'il va faire à la fin du mois, alors vous pensez bien à la fin du siècle. Et puis, la troisième chose que j'entends, c'est « mais bon, le climat a toujours varié et finalement, on s'est toujours adapté ». Et en fait, c'est vrai, le climat a toujours varié, mais la variation que l'on a depuis le début du XXe siècle, elle sort du rythme de la variabilité naturelle du climat. Et donc, l'amplitude et la vitesse de ce que nous vivons aujourd'hui est inédite. Et on n'a jamais eu à s'adapter à un climat qui change aussi vite et de manière aussi importante. Et donc, cette affirmation qu'on entend très souvent, elle est fausse.
Allez, tout de suite, on accueille Rémi. Vous êtes dans le Sud. Bonjour Rémi.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'effectivement, j'entendais tout de suite, on a une alternance de réchauffement et de glaciation depuis des millénaires. Bon, aujourd'hui, on est en période de réchauffement. Avant, quel est le déclencheur pour que le climat passe de la glaciation au réchauffement et du réchauffement à la glaciation?
Eh ben, question simple. Merci beaucoup, Rémi. Françoise Vimeux.
Oui, alors en fait, quand on parle de l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires, on est sur des échelles de temps très différentes et ce qui détermine cette variabilité, c'est la position de la Terre par rapport au Soleil et donc c'est l'ensoleillement que va recevoir la Terre. Et c'est uniquement à ces échelles de temps, et pour vous donner un exemple, pour sortir d'une période glaciaire et atteindre une période interglaciaire, ça prend à peu près 10 000 ans à notre planète, et le réchauffement est en moyenne de 5 degrés. Quand on regarde certaines trajectoires de réchauffement au cours du 21e siècle, du 20e et du 21e siècle, on pourrait atteindre 5 degrés seulement en 200 ans. Donc vous voyez la différence de rythme. La Terre fait une augmentation de température de 5 degrés en 10 000 ans, et nous, on va le faire en 200 ans. C'est pour vous montrer que oui, effectivement, il y a toujours eu des variations de température, mais pas au rythme que l'on observe aujourd'hui.
Oui.
Je croyais que vous vouliez dire quelque chose.
Ah, moi, je voulais dire tout à l'heure, oui, c'était pour revenir aux événements. Alors, ce sont des événements climatiques. Est-ce que c'est normal? En fait, on appelle ça des aléas climatiques, là, ce qu'on a eu sur le Pas-de-Calais. Mais on parle d'ailleurs du Pas-de-Calais. Il y a eu des précipitations exceptionnelles également sur les côtes atlantiques. Donc, beaucoup de pluie, bah, c'est un aléa climatique. C'est de la météo. Mais la météo, ça fait, je le répète, hein, je le disais en début d'émission, l'ensemble des météos qu'on vit fabrique notre climat, et on appelle ça notre climat. Le dérèglement de cette machine climatique fabrique des nouveaux climats. Et par quoi ça va fabriquer des nouveaux climats? Ça va fabriquer des nouveaux climats par de nouvelles distributions de météo sur notre zone. On va avoir une récurrence d'épisodes méditerranéens plus fréquents pendant 30 ans. Le climat dans 30 ans sera décrit par tous ces épisodes méditerranéens qui auront été plus fréquents et plus intenses, et donc des normales de saison qui seront différentes, en augmentation à cet endroit-là. Et donc on a vraiment cette idée que la météo fait le climat du moment, et ce dérèglement fait ces nouvelles météos. On est complètement intriqués tous les deux, même si on n'est pas aux mêmes échelles. Donc je comprends que on ait toujours cette petite différence. Voilà, Kiran, cette tempête, c'était un événement météo. La succession de ces régimes perturbés d'ouest sur le Pas-de-Calais, c'était une succession d'événements météo qui fait un aléa climatique, qui fait voilà, qui fait la limite entre nos deux disciplines, qui sont donc quand même assez proches l'une de l'autre.
Alors, on n'a sûrement pas épuisé le sujet, on vous réinvitera. Je renvoie aussi les auditeurs à un livre, Tout comprendre ou presque sur le climat, c'est publié par le CNRS avec Bonpote, qui vulgarise sur ces questions-là, avec une préface de votre consoeur Françoise Vimeux, Valérie Masson-Delmotte, qui est aussi climatologue qu'on connaît bien. Voilà, Melchior, on arrive au bout. C'est un peu frustrant parce qu'on aurait encore plein de questions.
Tellement de choses, avec beaucoup de questions, de témoignages de nos auditeurs également qu'on aurait pu vous lire, mais on refera, hein, tant qu'à faire, surtout que la météo, bah, c'est tous les jours, et le climat, c'est aussi tous les jours, hein, qu'il faut s'y intéresser. Merci à tous les deux, Françoise et Olivier. Merci, Anne. Dans un instant, je ne sais pas si vous aimez les orages, Anne.
J'ai un peu peur, mais j'aime bien.
Bon. Et bah, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui parcourent parfois plusieurs pays pour aller capturer le plus bel éclair. Ils ont un véritable coup de foudre pour les orages. On va les entendre. À tout de suite.